Bière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, Internet prié de faire le ménage sur ses sites. L'Union européenne vient de conclure un accord pour lutter contre la haine en ligne, la désinformation et la contrefaçon. Les détails à suivre après les autres titres, Christelle.
48,7 millions d'électeurs appelés à voter dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, mais dans les bureaux de vote, on manque cruellement d'assesseurs. Exemple à suivre à Argenteuil en région parisienne. Pas de trêve malgré la PAC orthodoxe en Ukraine. L'armée russe concentre ses forces dans le Donbass. Nous irons à Donetsk rejoindre nos envoyés spéciaux. Dans ce journal aussi, la voix caressante de November Ultra, la jeune femme, a enchanté les festivaliers du printemps de Bourges. Les femmes en passent d'égaler l'exploit des hommes. L'équipe de France féminine de rugby est tout près du Grand Chelem dans le tournoi des Six Nations, nous dira Laetitia Bernard dans le journal des sports.
Et dans 20 minutes, notre invité, Mars, Uranus et autres planètes. Quels sont les nouveaux enjeux de la recherche spatiale, on en parlera avec le planétologue François Forget.
France Inter.
Des campagnes de haine qui mènent au drame, à des suicides, des appels au meurtre qui débouchent sur des attentats, comme ce fut le cas pour Samuel Paty. L'Union européenne aura mis un an et demi à trouver un accord entre les 27 sur une nouvelle législation. Un accord qualifié d'historique pour réguler les contenus sur Internet, haine en ligne donc, mais aussi publicité ciblée, désinformation ou encore vente de produits contrefaits. Tout ce qui est illégal hors ligne doit l'être aussi en ligne. Bonjour Angélique Bouin, vous êtes en direct de Bruxelles.
Bonjour.
Voilà donc le principe de cette nouvelle loi qui va obliger en particulier les géants de l'Internet à nettoyer leur site.
Absolument. Cette loi va obliger les plateformes à retirer plus rapidement et plus efficacement les contenus haineux déjà listés et interdits sur la toile, auquel a été ajouté le partage de photos intimes sans consentement. La procédure de notification sera plus simple et leur responsabilité beaucoup plus engagée devant les autorités nationales des 27, mais aussi la Commission européenne, car sur le modèle de la politique de la concurrence, Bruxelles va pouvoir superviser directement les plus grosses de ces entreprises comme Google, Facebook, Twitter ou Instagram. Elle aura accès à leurs algorithmes et pourra imposer en cas de non-respect des nouvelles règles, des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour lutter contre la désinformation, ce futur règlement va aussi interdire l'utilisation de certaines données sensibles comme l'appartenance religieuse ou les tendances politiques des internautes. Elle protégera aussi mieux les mineurs contre les publicités ciblées qui seront interdites. Enfin, chacun pourra désactiver, s'il le veut, des systèmes imposés de recommandations sur certains sites pour les films, par exemple sur Netflix. Le règlement européen renforce également la responsabilité des sites de vente en ligne où pullulent les produits contrefaits. Ils devront contrôler leurs fournisseurs et pourront être tenus responsables du préjudice subi en cas d'accident, par exemple avec un jouet défectueux.
À Bruxelles, donc Angélique Bouin en direct, merci. Et le réseau social Twitter, de son côté, a annoncé hier, jour de la Terre, qu'il allait enfin interdire les publicités trompeuses sur le changement climatique.
Les premiers électeurs commenceront à voter dans 4 heures pour choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Il s'agit de ceux de Saint-Pierre et Miquelon, puis suivront les Antilles et la Polynésie, mais l'immense majorité des 48,7 millions d'électeurs voteront demain. On faisait la queue hier pour les procurations, d'autant que ce week-end, toute la France est en vacances de printemps. Et dans les mairies, c'était le casse-tête ces derniers jours pour trouver des assesseurs, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vérifient les identités, font signer les listes d'émargement ou encore tamponnent la carte électorale. Bonjour Emma Steven.
Bonjour.
Trouver des assesseurs, c'est une tâche qui a été particulièrement compliquée à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, où vous vous êtes rendu.
Oui, et c'est d'ailleurs à la dernière minute hier que le maire Les Républicains de la ville, Georges Mautron, a réussi à boucler la liste. Dans cette ville, il y a 50 bureaux de vote, il faut donc au moins deux fois plus d'assesseurs et de préférence des assesseurs issus des deux partis présents au second tour. Difficile déjà de trouver assez de volontaires pour le premier tour. Alors pour le second, Georges Mautron a pris les devants. Il a envoyé la semaine dernière une lettre à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen où il leur demande de fournir des assesseurs pour le second tour. Courrier qui est resté sans réponse.
Madame Le Pen ne nous a envoyé personne. Monsieur Macron ne nous a envoyé que 33 pour 50 bureaux. Là, je regrette bien vivement que les partis qui se disent responsables ne soient pas fichus de nous envoyer des représentants pour tenir des bureaux de vote. Oui, je trouve ça totalement regrettable.
Alors pour compléter les places vacantes, le maire d'Argenteuil a dû recruter des assesseurs dans la société civile.
Et finalement, Emma, qui va tenir les bureaux de vote demain à Argenteuil ?
Eh bien, ce seront de simples citoyens, même si c'est vrai que ce sont surtout des militants qui ont répondu à l'appel lancé par le maire.
Pour le tiers d'entre eux, ce sont des assesseurs qui, dimanche dernier, avaient l'étiquette Valérie Pécresse et ils ont bien voulu jouer leur rôle citoyen. Les autres, ils viennent d'un peu partout. Pour la majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont être volontaires pour assumer un dimanche de scrutin.
Une situation que déplore l'élu. Selon lui, tous les citoyens devraient prendre conscience de leur rôle dans cette élection. Plus que de simplement mettre un bulletin dans l'urne, ils devraient aussi participer au fonctionnement du bureau de vote.
Emma Steven, demain, la guerre en Ukraine entrera dans son troisième mois et la Russie a besoin d'une victoire. Elle entend prendre le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass pour faire le lien avec la Crimée. Les forces russes visent en particulier la ville d'Avdiivka, à 10 km de Donetsk, bastion des séparatistes pro-russes. Nos envoyés spéciaux Gilles Gallinaro et Omar Waman ont rencontré des soldats d'une brigade ukrainienne dans leur camp de base, près de la ligne de front.
Dans les sous-sols de ce bâtiment désaffecté, à 5 km du front, se reposent des soldats tout juste revenus des combats.
Cette nuit, on a eu deux blessés. Deux amis sur la ligne de front.
Andrei boit un café dans la pénombre au milieu de camarades endormis dans leur sac de couchage.
Chaque jour, ils essayent de percer nos lignes de défense. Mais ils n'y parviennent pas.
Ces soldats se sont installés dans cette ancienne usine où chacun participe à la vie en collectivité.
Qu'est-ce que vous préparez à manger ?
Bon.
Ça sent bon.
Yvan, 40 ans, de la ville de Tcherkassy, s'est improvisé chef cuisinier.
Je fais la guerre et je fais la cuisine. Cette guerre est stupide. Nous, on ne fait que se défendre. C'est eux qui nous ont attaqués.
Yuri, vous avez mis un autocollant bleu et jaune sur votre kalachnikov.
Oui, je suis un patriote. Ce que je pense, c'est qu'en face, les séparatistes pro-russes sont des traîtres. Ils se battent contre nous, Ukrainiens. Ces séparatistes n'ont rien à faire dans ce pays.
Ces soldats résistent avec acharnement aux tentatives d'assaut des forces russes, conscient que l'intégrité de l'Ukraine est en jeu. Avdiivka, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Les appels à la trêve à l'occasion de la Pâque orthodoxe n'ont pas été entendus. Il n'y a pas de couloir humanitaire pour permettre aux civils de Marioupol de fuir la ville martyre. Cette guerre a de multiples conséquences économiques. On en parle souvent, inflation, pénurie et aussi frilosité des consommateurs. Et les libraires le ressentent. C'est aujourd'hui la fête de la librairie indépendante. Elles sont 500 dans toute la France. Et après 2 ans de Covid, l'équilibre reste fragile, Agnès Soubiran.
Dans sa librairie des Abbesses à Paris, Marie-Rose Guarnieri fait ses comptes. Après l'euphorie de la réouverture, le contexte est à nouveau préoccupant.
Depuis février, depuis les événements de la guerre d'Ukraine, les élections présidentielles, là on a senti comme un fléchissement de la fréquentation, comme un repliement inquiet de nos lecteurs et du public.
Des ventes en dents de scie donc, et pour les libraires indépendants, des prêts à rembourser et des investissements à poursuivre.
C'est nous qui avons la décision et l'orientation de notre entreprise. Donc souvent on parle des libraires comme des gens qui ont du cœur, qui sont des gens comme des bonnes sœurs et tout, mais ce sont d'abord des entrepreneurs.
Et créateurs d'événements, pour Olivier Huguenot, gérant de la librairie Le Neuf à Saint-Dié dans les Vosges, qui fête cette année ses 50 ans, il faut plus que jamais aller à la rencontre de nouveaux lecteurs.
On sort des murs. Vous savez, c'est une expression qui est devenue très courante. Je pense qu'un libraire qui reste dans ses 4 murs, il est mort, pour parler clairement. Il nous faut aller à l'extérieur, solliciter, susciter des rencontres même. Il faut être aux aguets tout le temps.
Aux aguets des nouvelles tendances aussi, avec la multiplication de lieux hybrides ou très spécialisés, comme à Lyon, cette librairie féministe qui ne propose que des livres écrits par des femmes.
Sachez qu'un livre sur 2 acheté dans notre pays l'est dans une librairie indépendante, c'est rassurant. Et aujourd'hui, les libraires qui participent à cette fête offrent à leurs clients un recueil où 50 écrivains dévoilent les 10 livres qui ont marqué leur vie.
Et le Festival du Livre, c'est à Paris encore jusqu'à demain, et c'est un partenariat France Inter. Au bout de 150 jours de combat, les salariés de la SAM ont choisi de lever l'occupation de leur fonderie.
Un accord a été trouvé avec les liquidateurs judiciaires et les collectivités locales qui assurent l'immobilisation des machines et la sécurisation du site. La région Occitanie espère réindustrialiser le site de Viviers près de Decazeville et mise beaucoup sur un industriel local, MH Industrie, avec qui elle est en discussion. Son portrait avec Mathilde Dehimy.
La SAM n'avait pas d'avenir, assène Mathieu Aide, 47 ans, fondateur de MH Industrie. On ne tient plus avec un seul client automobile, dit celui qui est tombé dedans petit.
J'ai hérité de mes parents d'une fonderie d'aluminium dans le nord du Lot. La SAM a été un des premiers clients de mes parents. On était sous-traitants, ils étaient 40 fois plus grands que nous.
Lui a fondé son groupe en 2003.
Mon rêve de gosse, c'est de diriger un grand groupe industriel.
Il dirige 5 sites dans le Lot, le Tarn, la Corrèze, près de Dijon et en Espagne. 300 salariés, 600 clients et près de 30 millions de chiffre d'affaires.
Ce qu'on veut faire, c'est grossir. On a pour fil rouge d'essayer de doubler taille tous les 3-4 ans.
Son principe, se diversifier. Pièces agricoles, aéronautiques ou pour la défense, l'ancienne SAM serait sa plus grosse prise. Le site l'intéresse pour créer de longues pièces, les machines aussi, dont le prix reste à négocier avec les liquidateurs. Il compte surtout sur la motivation d'une partie des anciens salariés.
On a des gens qui aiment l'usine. Leurs grands-parents y travaillaient, leurs parents, ils ont cette fierté-là. C'est vraiment dommage de ne pas être capable de leur apporter du travail là où ils ont envie de vivre, hein. Quitte à ce que demain, on les forme à peut-être changer de métier.
Pour cela, il faudrait, dit-il, plusieurs dizaines de millions d'euros. Une étude de viabilité est lancée pour 6 mois avec le soutien de la région Occitanie.
Mathilde Dehimy, une marche blanche cet après-midi à Amiens après un triple homicide de 2 sœurs et de l'enfant de l'une d'elles. Le père de l'enfant est le principal suspect. Il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Il est à l'hôpital suite à un accident de voiture qui ressemble à une tentative de suicide. Un grand moment de douceur exquise hier au printemps de Bourges avec la jeune chanteuse franco-espagnole November Ultra. Elle vient de sortir son premier album et sa voix caressante est déjà une valeur sûre. Mathieu Culeron.
Temps fort du printemps de Bourges, hier soir, la prestation de la chanteuse November Ultra, une voix unique, des textes en anglais pour exprimer ses sentiments avec pudeur et une carrière qui a un peu débuté à Bourges l'an passé.
C'est marrant parce que le maxi, je l'ai sorti tout pile l'année dernière quand j'ai fait le printemps de Bourges. J'avais été invitée par Pomme, que j'adore avec Flavien, elle avait une carte blanche. Elle nous avait invités et à minuit, je me souviens, j'avais mon maxi qui était sorti, j'étais dans le TER de retour de Bourges. Et jusque-là, en fait, tout a été fait de manière indépendante.
November Ultra parle de ses émotions, de ses failles, une introspection qui a engendré cet album.
Je pense que le fil conducteur de cet album, de toute façon, c'est moi, c'est mes émotions, c'est moi qui grandis, c'est moi qui évolue, c'est moi qui expérimente. C'est aussi moi qui évolue en tant qu'artiste, en tant que productrice, en tant que compositrice. C'est drôle, c'est pour ça peut-être que ça me fait bizarre, je suis plus cette personne parce que la vie est passée entre-temps.
Bedroom Walls, le premier album de November Ultra, la révélation du printemps de Bourges, elle sera en concert le 11 mai prochain au Trianon. À Paris.
Give me a sign, my darling, let me know if I should.
C'est magique.
C'est magique. C'est une voix caressante. Une voix caressante et une valeur sûre. C'est celle qui présente le journal des sports.
Quelle
trop de pression.
Ouais. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Bernard. Allez, et de 4 pour le 15 de France féminin de rugby.
Eh oui, elles gardent le cap, hein, les joueuses. 4 matchs, 4 victoires dans le tournoi Destination. Les joueuses d'Annick Hérault qui se sont imposées hier soir au Pays de Galles. 33-5, bonus offensif en prime. Les Françaises, plus que jamais, toujours en course pour remporter ce tournoi, Fanny Lechevestrier.
Oui, comme pour les garçons, il y a un mois, l'équipe de France féminine s'est offert le droit de rêver jusqu'au bout d'une victoire dans le tournoi et même le droit d'espérer remporter son premier grand chelem depuis 2018 avec une finale rêvée face aux meilleurs ennemis, les Anglaises, rappelle la capitaine Gaëlle Hermé.
Comme on le disait, l'objectif est atteint, c'est-à-dire que jouer un match comme celui-là sur une finale du tournoi Destination avec peut-être au bout un grand chelem, c'est quelque chose d'incroyable pour l'avoir déjà vécu une fois.
Reste la dernière marche à gravir, donc la plus difficile toutefois, tant les Red Ils dévorent tout sur leur passage, invaincus depuis 21 rencontres. Mais la sélectionneuse Annick Hérault est persuadée que ces joueuses ont les clés pour en venir à bout, notamment grâce à leur défense et seulement 3 essais encaissés depuis le début du tournoi.
Ça coupe le cœur des joueuses aussi. Et je sais que ça va être un élément fort. On n'a jamais voulu cacher nos ambitions. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on s'habitue à ce type de match. Et c'est à nous de mettre tout en œuvre pour réussir.
Car vous l'avez compris, les Bleus aujourd'hui ne se satisfont plus d'une éternelle deuxième place. Seul le grand chelem les intéresse. Et pour y parvenir, elles pourront compter samedi prochain sur le soutien du public de Bayonne, avec un stade à guichet fermé depuis déjà 3 semaines.
Voilà pour ce rendez-vous entre la France et l'Angleterre samedi prochain. Et les Anglaises, elles joueront demain leur 4e match match du tournoi Destination face à l'Irlande.
Bon, à l'inverse, en football, rien ne va plus pour les amoureux du club de Nancy.
Le seul mot qu'il faut employer à cette saison catastrophique à tous les étages et tout, j'ai jamais vu ça, ça fait plus de 20 ans que je supporte Nancy. L'inquiétude de tous les supporters, on le voit, ils sont nombreux, que le club ferme.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, parce que le match de la 35e journée de Ligue 2 hier entre Nancy et Quevilly-Rouen a été arrêté à la 40e minute après des jets de fumigène de certains supporters lorrains. Nancy, dernier du classement, était alors mené sur sa pelouse 3-0. Dans la foulée, sur les réseaux sociaux, le club a annoncé sa relégation en national. Et si la défaite sur tapis vert est confirmée, ce sera effectivement le cas, puisque l'équipe ne pourra plus rattraper les autres d'ici la fin de saison. Nancy en national, ce serait une première dans l'histoire du club, le club formateur notamment de Michel Platini.
Allez, un peu plus de sourire, enfin on l'espère, ce soir du côté du Parc des Princes.
Oui, puisque le Paris Saint-Germain file tout droit vers un 10e titre de champion de France. Il peut être officiellement sacré dès ce soir à 5 journées de la fin de la Ligue 1. Il ne manque qu'un petit point aux Parisiens. Ils doivent donc l'emporter ou faire match nul ce soir face à Lens. Le coup d'envoi, c'est à 20h45.
Merci Laetitia.
Laetitia Bernard dans le journal de Christelle Rebière. Le temps?
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Et c'est perturbé au sud aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Des pluies mêlées d'orages vont survoler aujourd'hui une large moitié sud du pays avec des précipitations soutenues de l'Occitanie au Limousin en allant vers la région PACA, du vent jusqu'à 100 km/h de secteur sud, du golfe du Lion, Massif central et dans la vallée du Rhône, de la neige à moyenne altitude sur les Alpes et les Pyrénées, et une ambiance tout de même plus sereine pour la Corse. Dans la moitié nord, les côtes de la Manche vont garder les pieds au sec et pas mal de soleil, mais avec un vent de secteur nord-est sensible, tandis que sur le reste de la moitié nord, on ne sera pas à l'abri d'ondées orageuses, et ce sera notamment plus vrai en seconde partie de journée. Les températures maximales vont s'échelonner entre 15 et 21 degrés du sud au nord, avec 21 prévus à Lille et Paris, 19 à Strasbourg et Rennes, 18 à Nantes, Lyon et Marseille, 16 à Limoges et à Nice, et 15 degrés à Toulouse et à Biarritz.
Jean-Michel Golinski, Météo France.